On continue d'étudier la famille selon Dieu, plusieurs principes bibliques, des principes qui s'appliquent à chacun de nous et que c'est bon de réviser. Chacun de nous aussi, on est appelé à être des gens qui exhortent nos frères et sœurs, et en particulier qui exhortent les jeunes couples pour leur donner des conseils ou préparer les jeunes un jour lorsqu'ils auront leur propre famille et mettre en pratique aussi dans nos vies. Donc, on a vu jusqu'à maintenant l'origine de la famille. On a vu que la famille, ça a été institué par Dieu. Ce n'est pas une création humaine. C'est Dieu qui l'a institué. Ça commence par le couple. Et dans le couple, on a vu que les époux ont des rôles différents, même s'ils ont une même valeur aux yeux de Dieu. Tous les deux ont été créés à l'image de Dieu, mais ils ont des rôles différents. Et chacun peut contribuer aussi à une bonne ambiance familiale qui est essentielle pour avoir une famille selon le cœur de Dieu, qui veut qu'on soit dans la paix, dans l'écoute, dans la bonne communication, la bonne relation. On a vu aussi l'éducation des enfants avec Célestin, suivi par l'instruction chrétienne des enfants. Ça demeure dans le thème de l'éducation, mais plus précisément sur l'instruction chrétienne avec Ronald. Aujourd'hui, on voit encore un sous-point qui est la correction des enfants. Dans les prochaines semaines, on va voir le service dans l'Église, en famille, en couple. La gestion des finances, la sexualité, le rapport à la société et le témoignage chrétien. Donc, la semaine passée, ce qui a été vu, c'est que Dieu a donné la responsabilité aux parents d'éduquer leurs enfants à marcher dans ses voies. Donc, Dieu veut que chacun marche dans ses voies et c'est aux parents qu'incombe la responsabilité d'instruire leurs enfants à marcher dans les voies de Dieu par l'enseignement qu'ils donnent et aussi en étant des modèles. S'ils ne sont pas des modèles, ben, le message qu'ils envoient à leurs enfants, c'est un message d'hypocrisie. Les parents sont les évangélistes de leur foyer. C'est eux qui annoncent l'Évangile. Ils ont une place privilégiée pour annoncer l'Évangile à leurs enfants qui peuvent en comprendre le cœur là, à un très jeune âge. Est-ce qu'il y en a qui se sont convertis très jeunes ici, ont accepté le Seigneur en tant qu'enfant? On a vu que l'instruction chrétienne doit être adaptée à l'âge de l'enfant, justement. Mais dès le jeune âge, on apprend les doctrines essentielles. Donc, qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, la volonté de Dieu, qui nous sommes, qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que le pardon. Et on peut aussi, on doit prier pour leur salut et pour leur maturité, leur croissance dans la foi, parce que là-dessus, on n'a pas le contrôle. On peut que contribuer puis donner tous les outils qu'il faut, mais ça demeure à l'enfant lui-même d'accepter le Seigneur, d'être sauvé et de gagner en maturité puis de lui être fidèle. Aujourd'hui, on va voir la correction des enfants. Donc, c'est un sujet qui soulève des questions puis qui est parfois controversé, mais on va l'étudier à la lumière de la Bible. Si vous êtes professeur, enseignant dans une école, on voit que les parents, c'est peut-être pas la force ces jours-ci, là. La société moderne, là. Il y a peut-être un retour de balancier, là, je ne suis pas sûr. Mais, parce que pendant plusieurs années, les enfants n'avaient plus la notion même de respect de l'autorité, parce que ça ne leur a pas été inculqué, n'ont pas été corrigés dans ce sens-là. Donc, les chrétiens qui veulent l'inculquer à leurs enfants marche presque à contre-courant de la société souvent. On va voir deux parties à cette leçon, bien, cette leçon-là. Hein. Mais on va voir cette leçon-là en deux parties. D'abord, pourquoi il faut corriger et comment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire corriger? Remettre sur le bon chemin. Donc, un aspect dans la vie d'une personne qui a dévié. Oui, remettre à la vérité. Donc, s'il y a une déviation vers le mensonge, la fausseté, de ramener ça à la vérité. Rectifier. Oui. En plus de ramener à la vérité, je dirais ramener à la justice. Donc, si y a un mauvais comportement qui fait qu'on se comporte de manière injuste aux yeux de Dieu, c'est de ramener ça à la justice. La vérité, la justice. Donc, former le caractère, ajuster le comportement pour ramener à la vérité, à la justice. On peut se corriger soi-même ou on peut corriger une autre personne. Mais c'est vraiment corriger, c'est vraiment de prendre quelque chose qui est mauvais pour te le ramener bon. Est-ce que on doit supposer que le caractère de tout enfant a besoin d'être corrigé? Qu'est-ce que ça dit? Bien, on pourrait le lire, s'il vous plaît. Genèse 8, 21. On va aller le lire. Ça se passe après le déluge. Noé a sacrifié des animaux purs, puis ça l'a. Comme un parfum de bonne odeur pour l'Éternel après qu'il avait détruit toute la surface de la terre, tous les êtres vivants étaient morts. Qu'est-ce que Dieu dit à verset 21? Quelqu'un pourrait nous lire? Bien, tiens, Paul, s'il vous plaît. Oui, donc, en d'autres mots, Dieu annonce que s'il fallait qu'il punisse toute la terre à cause de la méchanceté de l'homme, bien, ça serait à répétition, là. Ou même la terre pourrait être détruite totalement parce que c'est inévitable que l'homme va recommencer à pécher. Et pas longtemps après, on voit Noé, d'ailleurs, qui s'enivre, il est saoul, puis il se dévêtit, là, il est nu. Puis son fils Cam, il va le rapporter aux autres, puis il se moque de lui. Mais ici, Dieu le dit clairement, que le cœur de l'homme, là, il est mauvais, là, depuis sa genèse, depuis sa naissance, en fait. Il a des pensées mauvaises, où on peut dire qu'il est enclin, disposé au mal, de sa jeunesse. Parce que tout enfant naît avec une nature pécheresse. Et ça, habituellement, les gens dans la société ne vont pas être d'accord avec ça. Ils vont dire qu'un enfant naît pur, innocent, et que c'est son environnement qui le corrompt. Mais que s'il grandit dans un bon environnement, normalement, il va être une bonne personne, puis il ne va faire que du bien. Mais c'est faux. Même s'il naissait avec deux parents, dans une famille où les deux parents sont parfaits, sans péché, lui-même serait quand même porté au péché. On n'a pas besoin de lui enseigner à être jaloux ou à se chicaner ou à refuser de partager ou de dire non quand on lui demande des choses. Il est capable de le faire tout seul. Proverbe 22, 15 dit « La stupidité est attachée au cœur de l'enfant. » Ou 29, 15 « Le garçon livré à lui-même fait honte à sa mère. » Donc, livré à lui-même, c'est sûr qu'il va mal tourner. Et à la base, ce qui doit être corrigé, fondamentalement, c'est la rébellion. La nature pécheresse fait qu'on est comme rebelle par nature. On n'aime pas se soumettre à l'autorité. Donc, la correction a un des objectifs, même fondamentalement, là, l'objectif, c'est de rendre l'enfant obéissant. Et Paul ici s'adresse directement aux enfants, mais on comprend que c'est les parents qui l'enseignent à leurs enfants. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et obéir, c'est fondamentalement à obéir au principe d'honorer ses parents. Donc, l'honneur qui est dû aux parents. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'était l'un des 10 commandements que Dieu a donné au peuple d'Israël, qui était comme un résumé de sa volonté. Puis il leur disait justement dans le contexte où ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise, si vous voulez vivre longtemps là-bas, là, être heureux, il faut que chacun honore ses parents. Donc, on voit pour Dieu que c'est très important. Mais c'est quoi la logique derrière? Pourquoi est-ce que les enfants doivent obéir à leurs parents? Bon, Dieu le dit, c'est suffisant, mais est-ce qu'il y a une raison qui vous vient à l'esprit? Oui, donc il y a une promesse. Ça souligne donc l'importance. Oui. Est-ce qu'il y a un principe? Pourquoi est-ce que les enfants doivent honorer leurs parents? Pourquoi ce ne serait pas le contraire? Ou pourquoi plus leurs parents que n'importe quel autre être humain? Donc, il y a un principe ici qui est très, une raison qui est très pratique, là. C'est que la famille, c'est comme l'incubateur, là, où on forme des futurs citoyens, des futurs fondateurs d'autres familles. Donc, ils doivent être éduqués à honorer leurs parents, puis ainsi, ils vont honorer les autorités dans la société, puis l'ordre va être possible. Je pense aussi, puis c'est mentionné, que leurs parents, c'est eux qui les ont mis au monde. Et dans ce sens-là, c'est comme s'ils poursuivent l'œuvre de création de Dieu. Dieu a créé Adam et Ève. Si on va aller lire Genèse 5, 1 à 3. On voit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Puis plus loin, Adam, âgé de 130 ans, va engendrer un fils à sa ressemblance, selon son image. C'est comme le même principe, là. Adam a été créé à la ressemblance de Dieu. Puis le fils qui naît à Adam est à sa ressemblance, à son image. C'est un peu pour ça qu'on voit dans Luc aussi qu'il dit que la généalogie de Jésus, là, Jésus, fils de Joseph, puis ça remonte jusqu'à fils d'Abraham, fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc honorer ses parents, là, c'est honorer les gens qui ont honoré leurs parents. Et ça remonte comme jusqu'à Adam qui honore Dieu. Donc, honorer ses parents, c'est une manière d'honorer. Donc, rendre l'enfant obéissant, c'est le former à obéir aux autorités en général dans la société, comme disait Zacharie, mais de les former à, plus précisément à honorer et à obéir à Dieu. Et pourquoi c'est grave pour un enfant de désobéir à ses parents? Parce qu'il désobéit à ceux qui représentent Dieu face à lui. Et les parents, et particulièrement le père, les parents doivent rendre compte à Dieu de la manière dont ils ont corrigé leurs enfants. Et on a un épisode assez éloquent dans 1 Samuel 3. On connaît, quelqu'un voudrait nous le lire, s'il vous plaît? 1 Samuel 3, versets 11 à 13. Peut-être 1 Samuel dans la salle? Oui, donc qu'est-ce qui est reproché à Élie ici? Non, ce n'est pas un péché qu'il lui-même avait commis, mais c'est de n'avoir pas repris ses enfants, alors qu'ils étaient en position même d'autorité, censés être des modèles pour le peuple, mais donc, c'était grave. Et Dieu lui reproche, et c'est lui qui rend compte à Dieu. Bien sûr, ses enfants rendent compte eux-mêmes à Dieu aussi, là, mais il y a une responsabilité au père. Et c'est d'ailleurs un critère pour être un ancien dans l'Église, pour être pasteur. On lit dans 1 Timothée 3 qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Ça veut dire qu'il a inculqué l'obéissance à ses enfants, avec une parfaite dignité. Maintenant, comment on fait? Qu'est-ce que c'est que la correction? Comment doit-on corriger les enfants? D'abord, selon la Bible, c'est sûr. C'est évident, mais la Bible est le guide et l'outil par excellence pour éduquer. Quelqu'un connaît par cœur 2 Timothée 3, 16, 17. Toute l'Écriture, toute la Bible est utile pour instruire et, entre autres, pour corriger. Donc, un mauvais comportement, puis on peut l'apprendre en enfant. Bon, peut-être dans son jeune âge, c'est avec une Bible illustrée, où on peut lui citer des versets, mais même la Bible est utile, même à l'enfant, pour comprendre. Elle est un guide pour le parent aussi, pour savoir quoi inculquer, mais toute l'Écriture est bonne pour instruire puis préparer l'homme de Dieu dans la justice, qu'il soit prêt pour toute bonne œuvre, et en particulier préparer un enfant. Et c'est selon le modèle de Dieu, puis c'est intéressant de voir comment Dieu corrige, comment il corrige son peuple, comment il nous corrige, et c'est par amour. Même dans l'Ancien Testament, où Dieu paraît à plusieurs reprises très sévère, la conséquence est radical, là, son jugement. Il y en a qui sont tombés morts dans le désert. Mais de façon globale, comment Dieu a agi avec son peuple, il ne l'a pas rejeté, puis on comprend que c'était pour l'instruire, pour l'éduquer, et que c'était par amour. Il n'a jamais lui-même rejeté son peuple. Et c'est spécifiquement dit dans Hébreux 12, versets 5 à 8, pour ça que quelqu'un d'autre puisse le lire. Donc, quel encouragement qui est donné à ceux qui subissent une correction du Seigneur et qui trouvent que c'est pas drôle, là? Oui, supportez-la. Et est-ce qu'il y a une raison pour encourager à supporter? Oui. Ce qui est dit par l'auteur de l'Épître aux Hébreux ici, c'est que c'est même un privilège d'être corrigé par le Seigneur. Le Seigneur ne prendra pas la peine de corriger les enfants du voisin. S'il nous corrige, c'est parce que nous sommes de sa maison, nous sommes ses enfants. Donc, c'est même un honneur qu'il nous fait. Et donc, c'est pour notre bien, c'est par amour qu'il le fait. Et ça devient le modèle pour nous, pour corriger nos enfants, que ce soit par amour. Même lorsque c'est déplaisant, ça fait mal, l'enfant n'aime pas ça, on peut le faire par amour, mais réellement par amour. Mais est-ce que vous avez des exemples de mauvaises motivations pour corriger, qui ne seraient pas par amour? Puis leur but, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils espéraient? OK. C'est juste qu'ils ne l'aimaient pas. Puis, ouais, comme Aurore, l'enfant martyr. C'est une histoire du Québec, ça. D'autres mauvaises motivations? Est-ce que ça se peut qu'on corrige un enfant, mais on n'est pas motivé par l'amour? Oui, Tatiane? Oui, ça, c'est absent complètement dans la Bible. Oui, Zacharie? Ah, oui. On est corrigé, mais comme pour bien paraître. Oui, ça peut être la jalousie qui le motive. Ou ça peut être le désir de bien paraître quand il vient à l'église. Puis à la maison, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais quand ils sont à l'église, par contre, comportez-vous comme du monde, vous ne me ferez pas honte, là. Ça peut être tout simplement l'impatience, la frustration. Ça a mal été au travail, là. L'enfant, il crie un petit peu trop fort, là, en jouant, là. Puis on le chicane, mais c'est la violence verbale, là, ou même physique. Là, c'est Ça peut passer sous couvert de la correction, mais en réalité, c'est simplement de l'impatience, un manque de contrôle. Ce qui est vraiment mauvais aussi comme intention, c'est de vouloir humilier l'enfant, lui montrer à quel point... Montrer qu'un comportement est mauvais, c'est une chose, mais montrer que la personne est mauvaise et est presque comme une cause perdue pour humilier, pour abaisser, ce n'est pas une bonne motivation, ce n'est pas un bon objectif. Puis, de la maltraitance, comme Paul Augustin disait, de vouloir intentionnellement blesser, c'est sûr que c'est mauvais. Donc, comment est-ce qu'on doit corriger de façon générale? Il y a plusieurs principes. Un premier, c'est en étant raisonnable. Ça revient à plusieurs endroits dans la Bible. C'est intéressant de voir la loi dans l'Ancien Testament où Dieu donne des lois, puis il y a une longue série de préceptes pour comment réagir lorsque quelqu'un enfreint la loi. Puis, il y a des actions à prendre, mais Dieu distingue une faute involontaire d'une faute volontaire. Donc, c'est raisonnable. Donc, c'est un bon modèle pour nous. En fait, c'est le meilleur modèle, la manière dont Dieu juge nos actions. On lit dans Nombre 15, « Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a commis une inadvertance en péchant involontairement devant l'Éternel. Quand il aura fait l'expiation pour elle, pour cette personne, il lui sera pardonné. » Mais, verset 30, « Si quelqu'un agit d'une manière délibérée, il blasphème l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. » Même là, on comprend dans le récit que c'est possible de se repentir et de revenir. Mais on voit que la conséquence du péché, elle est plus grande pour un acte délibéré de rébellion. Donc, l'enfant qui se rebelle contre ses parents et qui ne veut pas faire quelque chose, il désobéit, un manque volontaire de respect, c'est plus grave, on peut dire, comme faute qu'il a oublié de faire ce qu'il était supposé faire. Ou il a enfreint une règle involontairement, ou il avait mal compris. Ça fait du sens? Avez-vous un commentaire à ajouter là-dessus? On va le voir plus tard, mais être raisonnable, ça veut dire aussi de mesurer c'est quoi la conséquence qui est appliquée. Il faut que ce soit... Il faut que ça ait du bon sens. S'il le faut, et souvent même en français, le mot « corriger » a cette connotation-là, s'il le faut, corriger physiquement. Ça, là, c'est vrai que c'est controversé. Et vous avez peut-être une conviction personnelle différente, chacun de vous, puis c'est correct. Dieu donne la responsabilité aux parents d'appliquer des principes dans leur foyer. Mais à la base, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, le châtiment corporel. Proverbe 22 dit « La stupidité est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'éloignera de lui. » Le bâton de la correction, c'est une métaphore, là. C'est pour parler de toute la correction, mais ça sous-entend la correction physique. Proverbe 23, 13, 14, « N'épargne pas la correction au jeune garçon. Si tu le frappes du bâton, il ne mourra pas. En le frappant du bâton, tu préserveras sa vie du séjour des morts. » Donc, les bienfaits pour sa vie sont beaucoup plus importants que le petit soulagement qu'il pourrait avoir de ne pas lui imposer une correction physique sur le moment. Bien, je vous laisserai la chance d'intervenir, mais je voulais tout de suite faire le point sur qu'est-ce qu'il y en est de la loi au Canada. Au Québec, ce n'est pas pareil partout dans le monde, là. Puis même, c'est en train de changer. Mais selon l'article 43 du Code criminel du Canada, et même si on était au Québec, on est soumis à la loi canadienne, l'article 43 dit qu'il y a une forme limitée et raisonnable de force qui peut être utilisée par les parents pour corriger corporellement leur enfant. Mais cette disposition-là est en train d'être révoquée, elle va être enlevée, à moins que ça change, là, mais par le Bill C-273. Et là, ça veut dire que tout usage de force physique pourra être poursuivi comme une agression criminelle. Donc, tu tires les oreilles de ton enfant pour lui dire de venir, là, tu pourrais être poursuivi pour ça. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui va poursuivre tout le monde, là, mais l'article 43 pourra plus être utilisé pour plaider, pour être excusé. Mais jusqu'à maintenant, la manière dont la Cour suprême du Canada a interprété l'article 43, c'était pour limiter, mais c'était quand même pour justifier une action. Mais ce que la Cour suprême a dit, c'est que la force doit être mineure et doit être transitoire. C'est pas quelque chose que tu imposes toujours, c'est dans le but de changer un comportement, sinon c'est temporaire. Elle ne peut pas impliquer un objet parce que c'est compris qu'un objet peut blesser. On ne peut pas viser la tête. La correction corporelle ne peut pas être utilisée contre un enfant de moins de 2 ans, parce qu'il ne pourrait pas comprendre, ou contre un adolescent. Donc, il y a un certain âge où c'est considéré comme humiliant. Là, ce n'est plus acceptable. Donc, 12 ans et plus. Donc, à partir de l'adolescence, la Cour suprême a jugé que ce n'était plus un comportement correct. Ce n'était plus le châtiment corporel. Et ça doit se faire sans être dégradant ou d'infliger une blessure. En général, il y a du bon sens là-dedans, je trouve. Maintenant, puisqu'on est au Québec, il y a aussi la loi québécoise sur la protection de la jeunesse. Et ici, un adulte qui utilise une méthode d'éducation jugée déraisonnable, violente ou abusive, peut être signalé à la DPJ. Et la DPJ peut intervenir et prendre des mesures si la santé, le développement ou la sécurité de l'enfant sont compromis. Donc, la DPJ pourrait retirer l'enfant temporairement à un couple ou même définitivement. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oui, Nick? Oui, mais c'est vrai que c'est du cas par cas. Certains enfants peuvent devoir recevoir la correction plus souvent, puis d'autres non. Juste le fait d'entendre dire qu'ils pourraient être corrigés, ça c'est. Moi, j'ai eu quelques tapes sur les fesses, puis c'était bon. Puis je pense que j'aurais peut-être dû en avoir plus un peu, là, mais... On va venir justement à d'autres formes de correction qui ne sont pas nécessairement corporelles et qui fonctionnent, là, c'est sûr. Puis c'est du cas par cas, comme disait Nick. Il y a une sagesse à appliquer là, dans la correction corporelle. Premièrement, c'est quelque chose qui est privé. On ne fait pas ça dans le centre d'achat. Là. Ouais. Surtout dans une société qui est de plus en plus intolérante à ça, là. Oui, mais je me souviens qu'à un moment donné, mon fils Étienne, je voulais juste l'obliger à manger. Il dit non, faut que tu manges ton assiette. Puis là, en tout cas, une de mes tantes était là, puis elle était scandalisée que j'oblige mon fils à manger. Il dit, mais non, c'est un enfant, il ne faut pas que tu le brimes, là. Il va décider lui-même s'il veut manger ou pas. Ben, en tout cas, ça peut être mal vu même juste de donner des ordres à des enfants. Mais le Seigneur nous demande d'inculquer à l'enfant l'obéissance. Donc, c'est normal qu'on donne des ordres. C'est une bonne chose. C'est normal qu'on corrige, mais c'est quand même une chose en privé. Elle vise les jeunes enfants qui ne comprendraient pas bien qu'une punition non physique puisse être la conséquence de leur faute. Donc, un très jeune enfant, si tu le prives de pouvoir jouer avec son jouet pendant 1 heure, il ne va pas nécessairement faire le lien que c'est parce qu'il vient d'être rebelle. Quand tu gagnes en compréhension, là, OK, on peut donner d'autres formes de correction par privation des punitions, mais le jeune enfant, il ne va pas nécessairement faire le lien que c'est une conséquence d'une mauvaise action qu'il a faite la veille, parfois même. On comprend, là. Quand il grandit un peu plus, là, on peut donner des punitions, des conséquences plus... en tout cas, qui demandent une certaine compréhension plus mature. Puis l'objectif, c'est de causer une douleur, c'est sûr, parce qu'un reproche qui est fait, c'est la correction corporelle, c'est pas bon parce que ça fait mal. Mais c'est ça le but. C'est une douleur, mais qui est suffisante. C'est pas exagéré, qui est raisonnable, puis qui a pour but d'ôter le goût de recommencer. Donc, les fesses, c'est connecté directement avec le cerveau. Et on doit comprendre. Bon, dans certains cas, la connexion n'est pas bonne, là. Et ça ne doit pas blesser, parce que c'est pas ça le but, là. Blesser physiquement ou psychologiquement. Ce qui peut être très blessant, c'est si notre motivation n'est pas bonne. Comme disait notre sœur, même un enfant peut le voir, la motivation de son père ou de sa mère. On peut corriger par des sanctions, par exemple, privées de quelque chose. L'exemple de Myriam, c'est intéressant. Elle était adulte, mais c'est le Seigneur qui corrige. Dans Nombre 12, Myriam fut exclue du camp pendant 7 jours. Et le peuple ne partit pas jusqu'à ce que Myriam ait été réintégrée. Donc elle est exclue, le privilège d'être dans le camp. En plus, la honte que le peuple reste là jusqu'à ce que sa punition soit complétée. Oui, c'est collatéral, mais je crois que pourquoi Dieu lui a donné la lèpre, c'était pas juste pour qu'elle soit malade. Je pense que le but recherché, c'était qu'elle soit exclue. C'est encore pire. Parce qu'elle, ce qu'elle recherchait, c'était l'honneur, puis elle était jalouse que Moïse ait toute l'attention. Elle dit, ah ouais, tu vas être encore plus basse là, pendant une semaine. Donc elle a eu la lèpre, c'est souffrant, là. Mais on voit la grâce de Dieu aussi parce que quelqu'un qui avait la lèpre, il ne pouvait pas guérir comme ça, là. Et Dieu l'a réintégré. Mais quand même, elle a eu. Elle a été privée, là. On peut imposer quelque chose de déplaisant, comme imposer une copie de 1000 mots. Ou comme. Israël, bon, il y a différentes raisons, mais en tout cas, ils se sont fait imposer de tourner pendant 40 ans dans le désert parce qu'ils ont désobéi à Dieu, ils n'ont pas voulu entrer dans la terre promise. Donc, il y a différentes sanctions qui peuvent être appliquées. Mais, comme on disait tantôt, si on corrige selon le modèle de Dieu, on doit faire preuve de grâce. Donc, Dieu est toujours juste, il est sévère, mais il fait preuve de miséricorde. Et il ne nous punit pas à la mesure dont on le mérite. Sinon, on serait tous morts là, depuis longtemps. Et Dieu nous fait grâce. Et Dieu peut même lever la punition qu'il a imposée. Bon, vous vous souvenez de Jonas, mais on va le relire. Là. Jonas n'était pas content. Jonas 4. C'est ça. Donc, Dieu avait annoncé aux Ninivites qu'ils allaient tous périr. Mais ils se sont repentis. Et Dieu a levé le jugement qui pesait sur eux. Donc, est-ce qu'on peut agir de même avec nos enfants? Ben oui. Et quand est-ce qu'on peut se permettre de lever une punition? Donc, si on dit, on voit la sincérité dans le cœur, le regret du péché, le changement, tout ça, ça porte un nom, c'est la repentance. Si on voit la repentance, il faut être prompt à faire grâce. Mais parfois, il peut y avoir des conséquences qui sont maintenues quand même, là, comme quand David a péché. Dieu lui a pardonné, mais il y avait une conséquence qu'il a dû maintenir. Pareil, son fils est mort. Bien, nous, c'est sûr, on n'applique pas ce genre de sentence-là, mais ça se peut qu'une punition qu'on a mise, que c'est une conséquence qu'on pense qui doit être maintenue, là, faut user de sagesse, là, un bon jugement. Il y a un principe qui est important dans comment corriger les enfants, c'est ne pas irriter. Éphésiens 6:4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Ne pas irriter, c'est ne pas pousser à la colère. C'est sûr qu'une punition, une correction, ça se peut que ça fasse naître de la colère sur l'enfant. Mais notre comportement ne doit pas pousser l'enfant à se mettre en colère. Maintenant, qu'est-ce qui peut irriter les enfants? Avez-vous des exemples? On va en voir plusieurs, là, mais est-ce qu'il y en a qui vous viennent à l'esprit? Les injures, oui. Les insultes. L'humiliation, c'est vrai. Quand l'enfant se sent diminué, c'est vrai. Parfois, le remettre devant des invités en plus. Exposer au public, ouais, de faire honte. Donc, qu'est-ce qui va irriter les enfants, les rendre, les pousser à la colère? Bon, d'abord, une ambiance de colère à la maison. Ça, Benjamin nous en avait parlé, il a enseigné la leçon sur l'ambiance, mais si on vit dans un climat qui est tendu, qui est négatif, de reproches constants, des chicanes, ça va affecter l'humeur des enfants. Puis là, la correction risque de ne pas bien fonctionner. Là. Ça peut être même... Le climat tendu ou la chicane, même dans le couple. Papa et maman se chicanent toujours, puis quand corrige les enfants, ça ne passera pas bien. Puis ça peut créer une irritation. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Et c'est premièrement dans notre famille, dans notre foyer. Ce qui peut irriter les enfants aussi, c'est une sévérité, mais qui est exagérée. Même l'enfant, là, il peut être habitué à des règles strictes à la maison, mais il peut s'en rendre compte quand c'est exagéré. Par exemple, qu'est-ce qui serait exagéré? Comment un parent pourrait être trop sévère, selon vous? Ouais, donc une faute qui est comme banale, puis tout le monde voit bien que c'est banal, puis la conséquence, elle est extrême, là. Ouais. Un débalancement. Ce qui va être une source d'irritation pour l'enfant, c'est si les exigences sont inatteignables. On exige des enfants un idéal qui est impossible. Et Dieu n'agit même pas comme ça envers nous. Ben, il nous demande d'être parfait, là. Mais dans la manière qu'il nous corrige, il ne nous corrige pas parce qu'on n'est pas parfait, là. Il y a du gros bon sens. De faire des reproches constants ou de la tyrannie. Donc, agir. Les parents, c'est sûr, doivent recevoir obéissance de leurs enfants, mais s'ils agissent comme des tyrans, des dictateurs, ils traitent leurs enfants comme si c'était des esclaves, ça irrite aussi, là. Ils perdent leur dignité. Ça provoque la frustration, le découragement. Colossiens 3, 21 répète la même consigne que dans Éphésiens, là. Père, n'héritez pas aux enfants, mais là, il ajoute la raison. De peur qu'ils ne se découragent. Et là, on n'atteint certainement pas le but. Et même, on provoque la rébellion. Une autre chose qui va irriter les enfants, c'est l'injustice. Qu'est-ce qui pourrait être injuste là, dans ce qu'on demande aux enfants? Ouais, on exige plus de l'un que de l'autre. Il y a du favoritisme, ou il y a un chouchou, ou il y a un bouc émissaire. Bon, très souvent, on va exiger plus du fils aîné ou de la fille aînée, parce que c'est le premier enfant qu'on a, puis là, avec les autres, on se calme un petit peu. Ce n'est pas nécessairement par favoritisme, mais des fois, il peut y avoir un favoritisme flagrant, là. Et ça, ça va provoquer l'irritation, c'est certain. C'est une injustice. Mais une injustice aussi fondamentale, c'est d'exiger de ses enfants quelque chose qu'on ne fait pas soi-même. On exige d'être poli, puis nous, on est impoli. On exige de ne jamais blasphémer, puis nous, on sac, comme les Québécois. On exige que l'enfant dise merci, puis nous, on ne dit jamais merci. Ou qu'il soit propre, qu'il soit convenable, puis nous, on a un comportement déréglé. Paul était sévère dans ses lettres, on en convient dans les Épîtres, mais il pouvait dire, il dit dans 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Donc, il était sévère envers lui-même. Et s'il pouvait dire ça, « Soyez mes imitateurs », c'est qu'il n'avait pas honte, là, « Regardez-moi, évaluez-moi. » Il suivait Christ sincèrement. Et à l'opposé, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, c'est comme les pharisiens. Un pharisien qui dit et qui ne fait pas, comme dit Jésus. Ça ne veut pas dire que ce qu'il enseigne n'est pas bon, mais c'est frustrant, là. C'est une injustice. Une autre injustice, c'est le favoritisme, de ne pas être égal. Donc, et pour cela, bien, il faut s'efforcer d'appliquer une discipline qui est égale envers tous les enfants. Jacques le dit ici dans le contexte de l'Église, mais ça s'applique dans le foyer. « Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personnes votre foi en notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. » Dieu était jugeait ça comme très grave dans l'Ancien Testament, dans la loi, là, si on n'appliquait pas la loi de manière égale envers tous. Il disait de ne pas tenir égard à l'apparence d'une personne. De ne pas privilégier le pauvre parce qu'il fait pitié, de ne pas privilégier non plus le riche parce qu'il a comme d'autorité, d'être égal, d'être juste. Oui, Nick. Mais il y en a juste une des deux qui est étonnante? Ah, c'est vrai. Mais moi, ce que je trouve, puis dans un sens, c'est peut-être naturel aussi qu'on soit un peu plus sévère avec le fils aîné ou la fille aînée, là. Mais ça va de pair aussi avec des privilèges que l'aîné a, que ses plus jeunes n'auront pas. Il aura droit à certaines choses, certaines sorties ou à certains privilèges avant que ses plus jeunes frères l'aient. Et il y a une part de responsabilité aussi d'être l'aîné. Tu dois être un bon exemple pour tes frères et sœurs. C'est pas sa responsabilité d'éduquer ses frères et sœurs, mais indirectement, il doit être un bon modèle. Donc, il est jugé plus sévèrement, oui, mais il est à une position privilégiée dans ce qu'il peut avoir comme bénéfice, et privilégié aussi dans le sens qu'il est un modèle. Et peut-être qu'il y aura une double part d'héritage, je ne sais pas. Oui, c'est ça, mais même la Bible nous dit, nos parents nous ont éduqués du mieux qu'ils pouvaient. Bon, on n'est pas parfait. Mais ça porte quand même des résultats. Et même si ce n'est pas parfait, l'enfant est éduqué. Il peut dire ça, je vais le reproduire, ça, je ne veux pas le reproduire. Oui, Samuel? Il sort d'avertissement pour les autres. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ça dépend toujours du caractère de chacun aussi, là. Mais... Donc, c'est ça, pas de chouchou, pas de bouc émissaire. Une autre forme d'injustice, c'est si les règles ne sont pas claires. Il faut que les règles soient claires. On ne peut pas corriger un enfant parce qu'il a fait quelque chose de mal alors qu'il ne savait même pas. On a des règles, puis c'est flou. Donc, il faut que les règles soient claires et que les enfants ne risquent pas d'enfreindre parce qu'ils ne les connaissaient pas ou parce qu'ils ne les comprenaient pas. Ça, c'est frustrant aussi. Là, j'ai été puni, puis je ne savais même pas que j'avais pas le droit ou j'avais pas compris. Oui, c'est un défi. Parce qu'il y a des valeurs contradictoires qui viennent de ce qui est enseigné à l'école ou des réseaux sociaux, de tous les influenceurs puis, qui vont dire le contraire de ce qu'on enseigne. C'est un défi. Mais, en tout cas, on fait du mieux qu'on peut. Puis, une chose on doit s'appliquer, c'est que ce qu'on donne est clair, à la lumière des ordres de l'Éternel qui sont droits, qui réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. On achève là. Et une autre injustice, on le disait tantôt, ce serait de ne jamais reconnaître ses erreurs. Là. En tant que parent, envoyer la perception, là, d'essayer de transmettre l'image qu'on est parfait. Jacques 5 dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Qu'est-ce qui peut irriter les enfants aussi, c'est la dureté, ne pas montrer d'appréciation. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, mais qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur, de sagesse. Donc, on peut être sévère, strict, mais être doux. Puis, montrer qu'on apprécie l'enfant, là, le jeune, quand il agit bien. On n'est pas seulement en train de faire des reproches. Et on l'a déjà dit tantôt, mais éviter toutes les insultes là, du genre imbécile, bon à rien, de transmettre l'idée là que il est comme une course perdue, là. Il n'y a plus rien à faire, là, puis ça, c'est vraiment humiliant. Une réponse douce calme la fureur, une parole blessante excite la colère. Donc, la correction, c'est une mesure, c'est quand même quelque chose de négatif, là, mais c'est le but est positif. Et on doit se souvenir que on est des disciples de Christ et Jésus-Christ, lui, nous corrige. En Apocalypse 3, 19, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Donc, notre but, ça doit être ça, que l'enfant se repente, qu'il change de comportement. Le but, ce n'est pas de le blesser, de l'humilier, d'imposer des blessures à long terme ou de l'écraser ou de le rejeter. C'est parce qu'il est notre enfant, on l'aime. Et on voit même pour son avenir, ça va être bon pour lui, qu'il marche dans les voies de Dieu. Celui qui ménage son bâton a de la haine pour son fils, et celui qui l'aime cherche à le corriger. On va terminer là-dessus.